France Inter.
Habiter ce monde, c'est partir d'un milieu, certes, un lieu matrice dont on apprend à se déprendre pour habiter d'autres lieux. Mon invité est Felwyn Sarr, et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ce sera une de ses chansons, Sumbedinyun Blues. On va peut-être commencer par la musique, parce que tout le monde vous prend pour un super intello, ce que vous êtes, un intello très important. Mais par contre, peu de gens savent que vous avez une triple vie. Je dirais triple parce que vous êtes poète. On y reviendra sur l'importance de la poésie pour irriguer l'imaginaire et aussi la pensée. Une vie d'intellectuel avec des essais très importants, mais aussi une vie de musicien et depuis très longtemps.
Oui, depuis très longtemps, lorsque j'étais étudiant, j'avais un groupe de reggae qui s'appelait Dolé. On a vécu une vie musicale durant 13 ans, 14 ans. On a fait des tournées, des concerts, une grande, je dirais, production de chansons, de scènes, d'albums. Mais oui, c'est absolument fondamental chez moi, la musique.
Alors, il faudrait que vous nous expliquiez, Felwyn, comment a commencé cet amour de la musique Et ce que vous ne dites pas, c'est que l'amour de la musique qui continue, c'est un amour de la musique qui est contagieux à l'intérieur des Sarres, puisque vous avez des frères et sœurs qui chantent et qui font de la musique.
Oui, en fait, c'est j'ai amené le virus dans la maison. J'étais adolescent, 14-15 ans, donc première guitare, donc commencé à jouer avec mes potes au lycée. Et à l'époque, j'écrivais déjà des petits textes d'aphorismes, de poésie, donc l'écriture de la chanson est venue assez naturellement. Et quand je rentrais l'été à Dakar, à la famille, je ramenais une guitare à mes frangins, donc on jouait durant l'été. Et lorsque je suis revenu des années plus tard, ils étaient tous devenus musiciens avec des styles différents et la musique avait pris une place absolument importante chez eux. Donc chacun a déployé les ailes de sa sensibilité dans cet espace-là. Quoi. C'est assez étonnant quand même. Ouais.
Et pour vous, il n'y a pas de différence entre faire un concert de reggae africain et publier un bouquin comme Habiter le Monde?
Non, je pense que c'est juste une histoire de véhicule et de rapport à la sensibilité des autres. Et qu'en fait, c'est un geste où on se met en relation. C'est un geste où on transmet des émotions, une vision du monde, une intériorité. Écrire un livre, c'est aussi faire ça. Et je pense que selon les sujets que l'on aborde et selon les étages de l'être auxquels on veut parler, l'un des véhicules est beaucoup plus adéquat que l'autre. Mais je le pense comme relevant d'une totalité, un désir d'aller vers autrui. Et ce désir peut prendre une forme sensible ou une forme plus intellectuelle et plus raisonnée selon les cas, quoi.
Alors vous inscrivez Felwyn Sarre dans une tradition assez nouvelle, mais quand même très féconde, d'intellectuels occidentaux et non occidentaux qui considèrent que la pensée doit être performative, que la pensée, elle est corporelle, que la pensée, elle s'accompagne de danse et de mouvement. Elle s'accompagne de sensations, de sensorialité, et qu'être un intello, c'est pas seulement être dans sa chambre en train de lire des bouquins.
Oui, je pense qu'il faut vraiment franchir ces cadres et se rapporter à une... Déjà, la pensée, elle n'est pas que rationnelle, elle est plastique, elle est vivante, elle est dans plusieurs lieux. Et je pense que le lieu du sensible est un lieu qui est absolument fondamental, parce que c'est un lieu qui est large, et que dans le lieu du sensible... La pensée peut devenir parole. Et à partir de ce moment-là, elle transite à travers le corps. Et cette grande dichotomie, matière, esprit, corps, pensée, je veux dire, ces grandes divisions quoi, qui nous ont séparés, scindés, je veux dire, elles ont le défaut de nous empêcher de faire l'expérience dans une pluralité de dimensions et l'expérience d'une totalité organique des choses. Les choses ne sont pas aussi séparées que ça. Et je pense qu'il y a aussi une... pour posture romantique tu vois, de l'intellectuel qu'il faut savoir ne pas prendre au sérieux quoi, et aussi ne pas assécher les autres dimensions de son être et de sa sensibilité sous le prétexte que l'on serait engagé dans une réflexion rationnelle et qui serait de très mauvais ton ou de très mauvais goût d'exprimer d'autres dimensions de sa sensibilité. Je pense que sentir, réfléchir, argumenter et penser relèvent d'un même geste, ils sont interdépendants. Et toute la nouvelle intuition, toute la nouvelle psychologie cognitive, tous les nouveaux niveaux de développement sur le savoir disent que ce sont des activités qui sont interdépendantes en fait.
Oui, mais vous, ça vous est venu naturellement, si j'ose dire.
Oui,
vous
oui.
êtes l'aîné de la fratrie, d'une très grande fratrie.
Oui.
Est-ce que ça vous a donné des responsabilités vis-à-vis de vos frères et sœurs?
Oui, absolument. Je veux dire, une famille africaine classique, déjà, une grande famille, lorsqu'on est l'aîné, déjà, il y a la pression de l'exemple, il faut rendre l'exemple. Il faut s'occuper des petits frères et des petites sœurs. Il faut surtout... Et d'ailleurs, quand je faisais de la musique, il n'était pas question que j'arrête mes études, parce que sinon, j'aurais été celui qui aurait donné le mauvais exemple aux autres. Donc, j'ai terminé ma thèse et je faisais mes albums en même temps. Et ça, c'est le poids de la responsabilité de l'aîné qui a fait que, à un moment donné, j'ai voulu même arrêter la fac et choisir que la musique. Et puis, je me suis dit, non, il faut quand même remplir le contrat et aller jusqu'au bout de la démarche académique pour ne pas donner le mauvais exemple aux jeunes frères et aux jeunes sœurs. Et surtout, ce que j'ai trouvé important en cours de route, c'est de considérer qu'on pouvait déployer toutes ses ailes, qu'il n'y avait pas à choisir en fait, il n'y avait pas à ceci ou cela. Bien évidemment, il fallait articuler des temporalités différentes, mais qu'on pouvait être dans un geste qui visait à s'épancher, quoi, à déployer toutes ses ailes et à ne pas considérer que qui trop embrasse mal être un.
Mais comment on sait qu'on a des ailes, Felwyn?
On le sait, je pense qu'il y a des... il y a une intuition profonde, je pense, que lorsqu'on est adolescent, qui relève du sentiment, qui relève de la sensation, qui relève de vérité intime qui grandit en vous, qui relève de monde qui se révèle en vous. Et si vous savez les écouter, vous savez qu'il y a des mondes en vous, il y a des univers intérieurs que vous voulez explorer, quoi. Après, la société a ses manières de vous inhiber ou de vous désinhiber selon les milieux dans lesquels vous grandissez, selon les gens que vous rencontrez. Mais justement, les écrivains ont été de grands maîtres, quoi. Ils m'ont appris, donc Rilke, à écouter mes mondes intérieurs et à les laisser grandir et à devenir des mondes.
Mais je voudrais qu'on parle aussi de la chance, peut-être, que vous avez eue quand vous étiez tout petit d'avoir comme terre maternelle New Dior. J'aimerais bien que vous parliez de ce paysage, parce qu'il y a un texte de vous qui est paru il y a très peu de temps où vous revenez sur cette petite enfance.
New Dior est une île qui se trouve dans les îles du Saloum et qui est une très belle île. C'est vraiment un cadeau magnifique de la nature. Et je pense que lorsqu'on y naît, on est installé dans une évidence de la beauté du lieu. Et ça, je pense que c'est un don qui nous est fait, quoi. Et après, lorsque je commence à écrire, je suis tenté de traduire un paysage physique en paysage mental. Et il y a cette activité où j'ai envie de transmettre un paysage mental, donc qui m'a habité. Et je pense qu'il y a quelque chose d'originaire là, dans la sensibilité et dans le rapport au paysage et au beau, qui est simplement donné au départ. Et puis il y a aussi un rapport à la vastitude, il y a un rapport à l'ailleurs. Le fait que ce soit une île, qu'il faille sortir de l'île, qu'il faille aller au-delà des mers, qu'il faille aller à la rencontre du monde qui est au-delà des eaux. Donc je pense qu'il y a des dimensions comme ça qui vous seront données, qui vous déterminent un peu à votre insu. Vous ne vous en rendez pas compte très tôt. C'est plus tard, lorsque je grandis, que je me rends compte que le voyage, l'eau, donc l'ailleurs, était déjà inscrit comme une nécessité du fait.
Parlez-nous du Bolong.
Le Bolong, en fait, c'est un canal, un chenal dans la mangrove qui serpente et qui fait que donc on l'emprunte avec une pirogue dans un espace qui est beau, qui est calme, qui est bordé de palétuviers et là aussi qui dessine une géographie physique et mentale en vous lorsque vous circulez dans les Bolongs, qui vous donne un grand sentiment de liberté et de beauté, et qui établit un rapport à la nature, qui est un rapport organique, lorsque vous avez l'habitude de sillonner ces espaces-là, quoi. Et donc, du coup, ça devient un lieu, je dirais, un lieu fondamental, un lieu originaire et matrice, que l'on porte en soi, vers lequel je reviens régulièrement, mais en même temps que je quitte, puisqu'il m'a tellement habité.
Mais oui, mais c'est ça qui est étrange dans votre itinéraire, c'est que ce lieu de l'enfance et de la haute enfance vous a complètement habité sensoriellement et peut-être philosophiquement. On reviendra à certains aspects de votre philosophie, Felwinsar. Mais tout d'un coup, dans votre histoire personnelle, jeune, vous avez quitté le Sénégal et cette île pour aller vivre en France. Est-ce que vous avez eu l'impression d'une perte, d'un dessèchement ?
Non, je suis mon père qui est venu faire une école militaire à Strasbourg et à Versailles, donc qui m'a embarqué dans ses valises. Donc on est venu en France. Ensuite, au bout de quelques années, on est retourné au Sénégal. Étant militaire, on a circulé dans tout le pays, dans plusieurs villes, au gré de ses affectations. Mais il tenait à ce qu'on retourne dans l'île tous les étés. Donc, on lui doit quand même l'ancrage. Quel que soit où nous étions, l'été, il nous ramenait dans l'île. Donc, du coup, il y avait cette tradition de revenir à New York durant les étés et de s'adonner aux activités champêtres, à la pêche, et de vivre une vie dans un monde rural, comme tous les gamins de l'époque, et de déposer un peu la citadinité, je veux dire, aux portes de l'île, quoi, et de faire une expérience différente, notre rapport au temps, notre rapport au territoire, notre rapport aux activités. Et ça a été absolument, absolument important et fondamental de nous faire voyager entre ces mondes-là. Et donc, du coup, à notre insu, l'île s'est inscrite et s'est réinscrite en nous, quoi.
Comment a commencé votre éveil de la philosophie ?
J'étais un grand lecteur quand j'étais gamin. D'ailleurs, mon premier roman d'Aïj est une quête philosophique. Bon, je veux dire, mais j'étais un grand lecteur et je lisais tout ce qui me tombait sur la main.
Oui, alors ce premier roman, il faut en parler. L'anagramme, c'est Djihad.
Oui.
Et c'est une sorte d'autobiographie poétique.
Oui, vraiment poétique, philosophique et spirituelle. Une lutte contre soi pour franchir ses limites.
Sortir de soi.
Sortir de soi, lutter contre ses ombres, élargir ses horizons.
Principe d'incertitude.
Absolument, absolument. Quoi. C'est absolument ça.
Et là, vous étiez très jeune quand vous publiez ce premier
livre. Oui, j'étais très jeune, j'étais à Orléans. Et c'était la somme de toutes mes, voilà, de toutes mes réflexions, luttes internes, élan, je dirais philosophique à l'époque. Et j'étais... Et je suis tombé sur des... Je tombe sur Nietzsche très tôt. Je gravis l'œuvre de A à Z. Je tombe sur Hermann Hesse, que je considère comme un philosophe. Je tombe sur Pascal Quignard, qui est un grand maître, puisqu'il a une grande érudition. Je tombe sur les textes taoïstes, bouddhistes. Je tombe sur la mystique musulmane, Rumi, Senghor, Césaire. Et il y a comme ça des, voilà, des veilleurs qui sont là, quoi. René Char, qui sont là et qui m'aident à grandir. Je me les incorpore. Comme dit Jean Grosjean, ça devient de la vie en moi. Je deviens ancien avec eux. Je grandis avec eux. Et j'ai des quêtes intimes de liberté qui résonnent dans ce que je lis chez eux. Et ils me disent, ce territoire-là existe. Faut pas croire qu'il n'existe pas, quoi. Et justement, comme Béatrice qui guide danse, quoi, à travers les enfers, donc ils me guident à travers des chemins que j'appelle des chemins d'autogravissement, quoi. Et ils deviennent de vrais compagnons, ils deviennent des gens que je fréquente, des contemporains, des maîtres, des gens avec qui je dialogue, quoi, dans le temps phénoménal, dans un dialogue qui est diachronique, mais un dialogue suivi sur de longues années, quoi. Et je leur dois énormément. C'est-à-dire que je ne serais pas devenu qui je suis sans leur compagnonnage quotidien, quoi. Et je découvre qu'on pouvait vivre aussi dans ce monde-là, quoi. Que ce n'était pas juste, parce que je vivais entre plusieurs mondes, de l'Afrique, l'Europe, mais qu'il y avait aussi ce monde. Le monde des livres, quoi, qui était un monde en lui-même, quoi. Et qu'on pouvait voyager à l'intérieur, établir des affinités électives, grandir, se perdre, revenir, etc., etc.
Je vous propose d'écouter la voix de René Char, qui est si important pour vous.
Qu'ils vivent. Dans mon pays, les tendres preuves du printemps et les oiseaux malhabillés sont préférés aux buts lointains. La vérité attend l'aurore à côté d'une bougie, le verre de fenêtre est négligé, qu'importe à l'attentif. Dans mon pays, on ne questionne pas un homme ému. Il n'y a pas d'ombre maligne sur la barque chavirée. Bonjour à peine est inconnu dans mon pays. On n'emprunte que ce qui peut se rendre augmenté. Il y a des feuilles, beaucoup de feuilles sur les arbres de mon pays. Les branches sont libres de n'avoir pas de fruits. On ne croit pas à la bonne foi du vainqueur. Dans mon pays, on remercie.
Est-ce que c'est les activités de résistant de René Char qui vous ont interpellé quand vous étiez adolescent et qui ont fait que vous avez cheminé avec lui dans son intense poésie ?
Absolument. Mon père est militaire. Et c'est important de le dire parce que j'ai grandi dans les bases militaires et j'aimais l'armée. J'aimais l'engagement, j'aimais le don de soi, j'aimais le sacrifice ultime, s'il le fallait. Il y avait une sorte d'aura héroïque. En plus, mon père a été au Liban, au Darfour, au Rwanda. C'était un soldat de la paix, quoi. Et je voyais cette idée de ces hommes qui disaient, je vais mettre ma vie au service. Parce qu'il y a aussi... Donc j'aimais cette idée. Et je trouve quelqu'un qui a une tension littéraire et poétique, il est poète. Donc il explore un monde dans sa poésie, il dessine un monde idéal s'il veut, il a une quête de vérité et de liberté. Mais quand la France est sous la botte donc nazie, il décide qu'écrire c'est insuffisant devant la vue du sang supplicié et qu'il doit prolonger donc sa parole en acte. Et il décide de construire une cohérence interne. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, l'idée de la cohérence interne. Mettre ses actes à l'unisson avec sa parole. Donc être en accord, donc devenir un musicien, réaliser un réel accord entre ce que l'on dit, ce que l'on pense, ce que l'on rêve et ce que l'on fait quand les temps s'y prêtent. J'ai d'abord respecté René Char avant de l'aimer en tant que poète. J'aimais sa poésie, mais je pense que j'ai respecté sa démarche de cohérence interne et du coup ça donnait du crédit rétrospectivement à sa parole. Donc sa parole pour moi elle est crédible puisque justement quoi, puisqu'il a été prêt à habiter sa parole et à donner son corps à sa parole. Et donc du coup, et j'ai du mal avec de super écrivains, des gens qui écrivent des choses belles et qui sont en désaccord dans les actes avec ce qu'ils écrivent, bien que je sache que ça relève d'une autre économie et que on n'est pas obligé, voilà, je le comprends d'un point de vue intellectuel, mais du coup la parole elle perd de la saveur pour moi lorsque l'on n'est pas en accord, lorsqu'on tente pas d'être en accord avec. Et c'est ça que j'apprécie hautement chez lui.
Vous, Felwine, vous êtes né avec l'indépendance de votre propre pays. Vous êtes un fils de l'indépendance, un cadeau de l'indépendance. Et petit à petit, et d'ailleurs vous avez écrit des textes qui ne sont pas forcément politiques sur le plan politicien, mais qui réfléchissent sur les espoirs de cette indépendance, puis sur les désillusions de cette indépendance, puis sur la gouvernance de certains pays indépendants. Quelle est votre opinion aujourd'hui sur le bilan des indépendances? Est-ce que les pays indépendants le sont encore réellement? Est-ce que c'est terminé la France-Afrique? Est-ce que cette nouvelle génération de chefs d'État africains va pouvoir continuer à assumer haut et fort, puisque vous êtes aussi l'auteur d'un livre Africa Utopia très important pour penser l'avenir de l'Afrique et le présent de l'Afrique? Est-ce que vous pensez que c'est gagné?
Non, c'est pas gagné. On est dans la lutte et dans la bataille, et je pense qu'on est en train de jouer une seconde séquence, un second round. Dans les années 60, ils acquièrent l'accession à la souveraineté internationale. Donc, formellement, les États sont indépendants. Mais tous les mécanismes de l'asymétrie économique, la domination, je dirais, symbolique, politique, linguistique, épistémologique, tous ces mécanismes sont laissés en place pour continuer la relation dans ce qu'elle avait d'asymétrique. Et ces mécanismes ont été pensés sur la longue durée. Et les États indépendants n'ont pas repris, comme le dit Heidegger, cite dans leur propre être. Ils n'ont pas tenter l'aventure de se réinventer. Ils ont hérité des cadres, de cadres politiques, de cadres économiques, de relations monétaires, de formes institutionnelles, avec une grande amnésie institutionnelle, comme si les sociétés africaines n'avaient pas produit des formes institutionnelles pour se gouverner, comme si elles n'avaient pas produit de formes économiques, comme si elles n'avaient pas produit de rapports et du vivre ensemble qui étaient des ressources fondamentales pour se réinventer. Il ne s'agissait pas de revenir dans un passé mythifié, mais il s'agissait de se fonder sur des ressources qui existaient, qui ont fait leur preuve sur la longue durée pour repenser des cadres qui étaient adéquats, qui étaient issus de la longue histoire de la dynamique des sociétés. Ça, ils l'ont raté. Certains ont essayé, Julius Nyerere, Kwame Nkrumah, même s'ils couturaient au début, après ils ont dérivé, après on ne les a pas aidés, tu vois, ils ont été empêchés. Il y a eu des espoirs, Lumumba, donc ça n'a pas pu prendre. Et donc, du coup, on a répliqué les formes qui ont été produites dans d'autres sociétés, avec d'autres armatures dogmatiques, et qui ont totalement nié l'historicité propre des sociétés africaines. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que la génération actuelle dit Nietko. Elle se rend compte qu'en fait, les vieux rapports de la France-Afrique, ils perdurent, même si on annonce toujours sa mort, mais quand même on la voit renaître, tu vois, à travers des réseaux, à travers des imaginaires, à travers des modes relationnels qui ne sont pas ceux de la réciprocité, du respect mutuel, de l'équilibre, non, qui sont toujours, il y a toujours un imaginaire de l'empire derrière. Et je pense que là, il y a une vraie mission d'achever l'œuvre de décolonialité. C'est pas tant la décolonisation en tant que telle, c'est les rapports asymétriques qui se nouent dans les relations économiques, dans les relations politiques, dans les imaginaires, dans les relations épistémologiques. Là, il y a un travail important à faire. Et je pense que c'est aux Africains de faire leur part fondamentale, parce qu'ils doivent faire leur part. Puisqu'il y a deux termes dans la relation, les Européens aussi doivent faire leur part, doivent aussi s'auto-décoloniser, décoloniser certains imaginaires de leur rapport à autrui. Et c'est un travail qui, de toute manière, doit être fait pour réinventer la relation sous le signe de la réciprocité véritable, du respect mutuel et peut-être de la mutuelle fécondité. Mais c'est une étape qu'il faut achever. Et je sens qu'il y a un vrai désir de ça dans la jeunesse du continent qui ne se sent pas représentée du tout par cette classe de chefs d'État qui ne la représente pas dans ce qu'elle a de plus lumineux, dans ses aspirations les plus fortes et qui est majoritairement anachronique. Il y a quelques exceptions sur le continent, mais elle est âgée, elle se fonde sur un imaginaire qui est éculé, elle ne s'est pas guérie d'un complexe d'infériorité qui est là, et d'une admiration, je dirais, béate, et puis elle ne se réinvente pas, quoi. Elle ne se réinvente pas à la hauteur du dynamisme culturel, social, économique du continent, quoi, et de la grande vitalité du continent.
Décoloniser l'imaginaire, c'est une œuvre psychique de salubrité publique, disait Frantz Fanon déjà à l'aube des années 60, lui qui était médecin psychiatre. Et vous êtes dans la continuation de ce travail de penser la décolonisation, évidemment comme une grave dette physique, morale, intellectuelle, historique, politique de l'Occident, mais vous vous attelez aussi à essayer de comprendre les dommages psychiques de la décolonisation.
Oui, parce que en fait, les infrastructures psychiques de nos, en tout cas d'un certain nombre d'entre nous, ont été largement endommagées par des siècles de dénigrement, par des siècles de travail. En tout cas, si on rajoute le fait colonial avant sa retraite, c'est un travail de déshumanisation sur la longue durée. on peut pas croire que ce travail-là ne laisse pas de séquelles, quoi. Et qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'il faut passer à autre chose, que c'est fini. Je veux dire, il y a un temps de résilience nécessaire. Moi, je suis né en 72, j'ai pas été colonisé, je n'ai aucun complexe, je suis bien dans ma peau.
Vous n'avez jamais vécu le racisme?
Si, j'ai vécu le racisme quand j'étais étudiant en France, mais j'étais assez armé.
Bon,
oui, oui.
À la fac?
Ben, on le vit à la fac. C'est ça qui est intéressant, c'est que on est dans un espace dont on pense qu'il est totalement au-dessus de cela. On se rend compte que non, en fait, c'est un microcosme de la société. Et les étudiants africains font deux fois plus. Certains d'entre eux, il y a un doute, quoi, sur leur capacité. Et quand ils sont bons, ils sont exceptionnels. Non, ils sont pas exceptionnels, ils sont juste normaux, quoi. Et je veux dire, mais au départ,
il faut qu'ils travaillent deux fois plus.
Voilà, mais ils doivent prouver, quoi. Ils doivent prouver qu'ils sont à leur place, quoi. Et généralement, ils travaillent deux fois plus. Et aucune erreur ne leur est admise, quoi. Etc., etc. Je veux dire, on apprend à faire avec. Mais ce qui était intéressant, c'est que, en tout cas, moi, je suis arrivé bien armé, quoi. Parce que éduqué dans un milieu homogène, mon père, ma mère, etc., etc. Fiers de même de leur culture, bien dans leur peau. Aucun problème avec ça, donc du coup, ils m'ont pas transmis des vulnérabilités liées de cette longue histoire. Ils m'ont pas transmis une mémoire traumatique. Et c'est ça qui est intéressant. Donc du coup, à un moment donné, parce que même dans mes premiers textes, je n'ai jamais abordé la question du racisme parce que ce n'était pas une question qui était individuellement centrale pour moi. Et c'est après, en réfléchissant, que je me suis dit que c'est pas parce que moi, en tant qu'individu, c'est pas une question centrale, que c'est pas une question qui touche la communauté, c'est pas une question qui touche un grand nombre, quoi. Et que on porte une mémoire traumatique qui se transmet de manière intergénérationnelle et qui est nourri par encore un rapport au présent qui est un rapport de non-respect. Il faut juste voir comment les migrants africains sont traités. Quand vous êtes un jeune Africain et que vous regardez votre place dans le monde et que vous regardez les gens qui vous ressemblent, ben, il y a des raisons que vous doutiez de votre égalité et votre commune humanité avec les autres. Il n'y a pas que l'histoire, le passé. Il y a une perpétuation de rapports. Je veux dire, George Floyd des États-Unis, c'était quand même ça, quoi. Je veux dire, ces jeunes noirs américains, s'ils se rendent compte que ben, l'interaction avec la police est potentiellement létale et que c'est surreprésenté chez eux, ça crée quelque chose dans la psyché. Et s'ils remontent dans leur histoire et qu'ils se rendent compte que ben, cette histoire-là, elle dure trop longtemps, et qu'il y a eu, il y a eu les droits civiques, il y a eu Luther King, il y a eu tout ça, mais enfin, on en est encore là. Donc, il y a quelque chose à faire dans cet espace-là, quoi. Et je pense que ces luttes, au-delà du fait d'être des luttes spécifiques, c'est des luttes pour la dignité humaine. C'est de considérer.
Et pour la communauté des hommes.
Et pour la communauté des humains, absolument, quoi. C'est pas juste une lutte pour la petite famille africaine ou noire, afro-diasporique. C'est une lutte pour que l'humanité soit à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Et c'est une lutte pour tout le monde, quoi. Et donc, je pense qu'il faut les mener.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez, je vous propose d'écouter Felwine Sarr, Arthur H., qui va interpréter un texte d'un auteur que vous aimez beaucoup, que nous aimons beaucoup, qui s'appelle Édouard Glissant, La Coée du Lamantin.
Des tropiques du sud qui s'aplatissent et fondent dans la terre. Voyez ces ballons d'oiseaux, ces essaims. Vous concevez la spirale qu'ils dénouent et sur laquelle le vent coule. Mais vous ne serez pas les dénombrés vraiment, pendant leur lancée tout en crête et ravine. Ils montent et ils descendent hors de la vue. Ils tombent et ils s'enracinent. Ils repartent d'un seul cran. Leur imprévisible est cela même qui les relie et qui tournoie en deçà de toute science. Leur beauté frappe, s'enfuit, puis la nuit surgit qui vous stupéfie. les avait pas vus répandre là sur les bords et là sur les écumes noircies, le linge damassé de ce silence qu'ils font.
Alors c'est vrai que quand on vous lit, il y a des essais philosophiques, Habiter le monde, Africa Utopia, il y a des essais autobiographiques, il y a la chanson, il y a la poésie, il y a aussi des essais économiques, on y reviendra parce que c'est vraiment votre nouvel angle de vue et d'attaque de ce qui est en train de se passer dans le monde contemporain avec vous, Felwine Sarr. Mais partout, partout, il y a quand même, je crois, l'importance de la pensée d'Edouard Glissant, le monde comme relation.
C'est absolument vrai. Et ce qui est intéressant, pour être totalement honnête, quand j'ai écrit Habiter le monde, beaucoup de gens m'ont dit, tiens, c'est Glissant, tiens, ça, ce que tu racontes. J'ai dit, ah bon? Et j'ai été lire Glissant après.
Ah, c'est encore mieux.
Oui, et j'ai lu Philosophie de la relation, j'ai lu Poétique de la relation, j'ai lu Le discours antillais, et j'ai commencé à traîner dans son œuvre. Et j'ai trouvé une, et je suis totalement d'accord, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que je trouve qu'il a réussi dans un geste, je dirais, poétique, dans les essais philosophiques ou poétiques, de toucher là à quelque chose d'absolument fondamental, quoi, et qui prolonge Senghor, la civilisation de l'universel, et qui montre justement, quoi, la mondialité, la relation, je veux dire, la créolisation, ce n'est pas mettre dans un pot, les différentes choses, quoi. C'est justement, quoi, que la rencontre des cultures et de l'esprit humain crée un tiers lieu, improbable, imprévisible, mais qui est fondamentalement le devenir de vers là où nous allons, quoi, et quelle que soit la violence de la rencontre. Et j'ai beaucoup aimé cette idée aussi de reconstruire une culture sur la base de fragments, donc les Caraïbes, la Digenèse, ces gens qui arrivent dans la cale d'un bateau, dont les dispositifs symboliques ont été totalement violés, piétinés, et qui reconstruisent avec des bribes, des fragments, et qui se mélangent avec d'autres, et qui refondent en dehors du fondement, tu vois. Et qui montre que la vie persiste, et que la vie peut devenir trace, et qu'elle peut s'éclater. Et je trouve une nourriture, mais absolument incroyable chez Glissant. Je trouve une nourriture, mais lumineuse, quoi. Lumineuse. Et je suis toujours impressionné, quoi, par comment il a pu, dans un geste d'écriture, rendre ceci totalement clair, quoi. Totalement clair et puissant, quoi.
Alors, en dehors de l'admiration que vous portez pour Glissant, moi j'ai aussi beaucoup d'admiration pour votre travail, Felwine Sarr, parce que avec vos différents angles d'attaque, que ce soit la poésie, que ce soit la philosophie, que ce soit la littérature et que ce soit la musique, vous définissez aussi de nouveaux concepts philosophiques. J'aimerais bien que vous reveniez sur ce concept de Tonga. Comment vous pourriez l'expliquer ?
En fait, c'est des concepts que je prends dans les cultures africaines. En fait, les cultures africaines ont produit beaucoup de ressources liées à la manière dont on fait lien, à la manière dont on est hospitalier, à la manière dont on crée la communauté. Et les gens oublient en fait que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que les plus vieilles civilisations humaines, celles qui ont duré le plus longtemps, sont africaines. L'Afrique a la plus grande historicité. Puisque même quand Homo sapiens est sorti du détroit de Gibraltar pour aller se répandre dans le monde, il a continué à évoluer dans le continent. Donc ça veut dire que voici des sociétés qui ont engrammé en elles une longue connaissance, une longue histoire de comment on fait société et comment on fait face à tous les défis d'une société et comment on se remet d'un certain type de choc, comment on se réinvente. Donc il y a là un répertoire incroyable. Et quand on cherche des ressources pour le lien, on va en Afrique du Sud parce qu'il y a l'Ubuntu qui a été popularisé par Desmond Tutu et Nelson Mandela, mais on oublie qu'il y en a énormément dans tout le continent. Il y a la Teranga, il y a le Jom, il y a des ressources en Afrique centrale. Et ces ressources-là, c'est comment on fait et défait, comment on refait lien, comment on réinvente la communauté, comment on réinvente le vivre ensemble, comment on l'ouvre à ce qui est neuf. Vous vous appelez Diallo, vous arrivez à Dakar, on vous appelle Diop, vous venez avec vos dieux, on les intègre dans le Panthéon. La famille, il y a une notion élargie, il y a toute une philosophie pratique qui sous-tend cela. Il y a le cuisinage à plaisanterie, il y a énormément de ressources dans un monde en déliaison qui cherche à comment se relier à nouveau. Et donc, du coup, je vais les chercher et j'essaie de voir quelles sont la pluralité des potentialités, pas juste ce qu'elles disent aujourd'hui, mais comment aussi on pourrait les déployer à d'autres niveaux. Et là, et c'est un travail de réactivation de ces ressources-là.
Et de reconnaissance de la philosophie africaine.
Et de reconnaissance des ressources philosophiques africaines, des ressources culturelles, des ressources éthiques, de la matrice culturelle, ce qu'elle produit, et de la fécondité de ces signes-là, quoi. Et surtout, en quoi ces signes peuvent être utiles pour répondre à des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce n'est pas juste, voilà.
Alors vous joignez, si j'ose dire, le geste à la parole, parce que vous ne vous contentez pas d'être un intellectuel professeur maintenant à la Duke Université aux États-Unis et avant professeur à Dakar, mais vous avez aussi construit des ateliers de la pensée à Dakar, comme si effectivement il fallait une communauté de pensée, une circulation de la pensée, une croyance en l'importance de la pensée pour le mieux vivre.
Je pense que c'est absolument fondamental et que ça ne peut pas être un geste solitaire. Je pense que, voilà, une fois qu'on a construit son individualité, il faut recréer des solidarités. Et que de toute manière, les grandes avancées sont des avancées collectives. Et puis aussi sortir du mythe du génie individuel ou du prophète sauveur. Je pense qu'il y a certaines questions, on a besoin, comme ici, quoi, ce qui se fait ici, on a besoin de mettre les intelligences en résonance, de les mettre en friction, de créer des lieux, des forges, d'où vont émerger ce que les uns et les autres peuvent apporter de mieux. Et on a besoin de...
Donc, partage.
Le partage, l'interaction déjà qui est féconde, qui fait que quelque chose naît entre le jeu, le tu et le il. Le L, quelque chose né là, qui ne serait pas né si on n'était pas là, et si on n'avait pas tenté quelque chose ensemble, et quelque chose qui permet de se disséminer dans des espaces plus larges. Et donc c'est pour ça qu'avec Achille, on a monté les ateliers en 2016.
Alors Achille, c'est Achille Mbembe.
Achille Mbembe. On a monté les ateliers en 2016, puisqu'on s'est dit que les questions qui étaient les nôtres, on ne pouvait pas déléguer aux autres le soin de les penser à notre place, quoi. Il fallait bien qu'on se pense nous-mêmes dans le monde, et quels étaient nos défis. Donc les premières années, on s'est occupé de problématiques fortement africaines, et avec le temps, on a élargi à des questions globales. L'Afrique ne doit pas être, ne doit pas être cantonnée à penser les défis proprement africains. L'Afrique est dans le monde, quoi. Et les défis du monde, l'économie.
Enfin, l'Afrique, c'est plus que plus que le monde.
Oui, vraiment, c'est vraiment. Et les défis du monde sont ces défis, et du continent peuvent émerger des idées, des solutions, des paroles, des propositions fortes pour repenser les grands problèmes du monde et qui nous assaillent, quoi. Donc on est dans cette logique-là aussi.
Alors en philosophie politique et poétique, vous définissez des nouvelles pistes aussi, Felwinsar. Et notamment, vous revenez sur ce concept qu'on apprend à l'école dès qu'on commence des études d'universel. Le mot « universel », il est finalement substantiquement lié à la notion d'occidental, universel occidental. Et vous nous expliquez, justement, il faudrait peut-être commencer à le penser autrement, cet universel.
Oui, il faut le penser autrement, parce qu'il a, en tout cas, dans l'une de ses versions la plus dominante, il a été l'extension d'un visage au reste de l'humanité. Dans un coin du monde, certains se sont proclamés universels. Et l'universalité a été pour eux pendant un moment que les autres les rejoignent.
Vous voulez dire que c'était les dominants?
Voilà, c'était les dominants qui les rejoignent. Alors qu'un universel est forcément pluriversel, il est forcément diversel. Et Césaire le disait, quoi, l'universel n'existe que s'il est riche de tous les particuliers. Mais le point de départ, c'est la diversalité, c'est la pluriversalité. C'est la pluralité des visages de l'humanité. Ce qui ne veut pas dire que nous ne partageons pas la condition humaine. Nous partageons la même condition humaine. Nous sommes des humains, nous sommes tiraillés par les mêmes élans, nous partageons la même condition. Mais les cultures sont les réponses endogènes, circonstanciées, que les hommes ont produites dans des géographies, dans des histoires données, à des problématiques spécifiques, dans des lieux donnés. Et ces cultures-là ont produit une pluralité de visages. Et ces visages-là font la substance de ce que l'humanité est. Et un universel qui n'engloberait pas cette pluralité dans son geste initial est un universel, comme le dit Maurice Merleau-Ponty ou Souleymane Bachir, de surplomb, quoi. Et pour que cet universel soit vraiment universel, pour reprendre les termes de ces deux-là, il doit faire droit à la multiplicité de ces visages. Et aussi, il ne faut pas aussi oublier que cet universel a été utilisé pour la conquête coloniale. Il fallait civiliser les autres, les amener dans le giron d'une seule civilisation, d'un rapport au monde qui était le rapport occidental. On a dénié aux autres la capacité de produire et culture et civilisation et sens et savoir au nom de l'universel, au nom de et on ne peut pas l'utiliser en oubliant quels ont été les usages néfaste de ce concept, quoi. Lorsqu'on reproche aux gens de ne pas vouloir être assez universel, on oublie que le concept est connoté et que d'ailleurs, si on veut qu'il soit un horizon, il faut le réparer, quoi. Il faut le nettoyer, il faut le resignifier, quoi. Et la pluralité ne s'oppose pas à l'unité fondamentale du genre humain, de l'existence humaine. Et lorsque je suis dans l'espace du roman, et que je lis Cent ans de solitude ou un texte de Mishima, je me reconnais profondément dans les tensions existentielles de ces textes-là. Et pourtant, je suis sénégalais, loin des réalités spécifiques de leur, mais je me reconnais dans l'unité fondamentale de la solitude, de nos tensions existentielles qui nous traversent. Là, la littérature fait la œuvre d'universel. Elle me rapproche de ces gens-là, quoi. Et donc je pense que c'est un concept intéressant, mais à condition d'en faire une vraie archéologie et de montrer les impasses, de montrer les usages délétères et de le ramener à ses vrais horizons, quoi, qui sont la pluralité.
Je vous propose d'écouter la voix d'Aimé Césaire.
Je me rendais bien compte de la terreur dans laquelle les villageois vivaient, de l'importance que ça avait d'être bien ou d'être mal et avec le colon, parce que c'est de lui que dépendait la vie. Si on vous refusait du travail à ce qu'on appelait l'usine, qui était la distillerie ou la fabrique de sucre, eh bien, il est clair que c'était vraiment la ruine et la catastrophe. Le patron de l'usine, le grand Béquet, c'était un être presque mythique. Et c'était vraiment le seigneur. Je me suis toujours connu aspirant à autre chose. Mais je crois que la révolte a joué un très grand rôle. Vraiment, le ressort politique a été d'abord la révolte contre cette médiocrité, contre cette oppression dont je discernais mal les causes, contre cette religion, et tout cela, vraiment, j'avais vraiment besoin de faire sauter un petit peu toute cette carapace, enfin, tout cela, j'avais un peu l'impression que j'étais étouffé.
Je crois que c'est un penseur qui a beaucoup aussi compté dans votre itinéraire, même si c'était il y a longtemps, et même si tout ce qui avait trait à la décolonisation paraît peut-être aujourd'hui obsolète, mais ça ne l'est peut-être pas, Felwine Sarr.
Non, Césaire a été fondamental. Je suis ébloui par le cahier d'un retour au pays natal, déjà un verbe poétique d'une incandescence extraordinaire. Jusqu'à l'époque récente, je connaissais des passages entiers du cahier par cœur.
C'est vrai.
Au bout du petit matin, va-t'en le disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance, va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon. Puis je me tournais vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d'une femme qui ment et l'a bercé par les effluves d'une pensée jamais lasse. Je nourrissais le vent, je délassais les monstres, etc., etc. Donc, je connaissais presque tout le cahier, discours sur le colonialisme fondamental et tout un ensemble de textes, je dirais, philosophico-poétique sur le fait décolonial, sur les cultures négro-africaines, la négritude de Césaire Senghor et Damas, et tout son engagement durant toute sa vie. Et c'est recueilli après Moi la Minère, Les Armes Miraculeuses, et tout son engagement, je dirais, toute une vie durant à travers le langage, quoi. Le langage.
Oui, comme si poésie et politique allaient de pair.
Absolument. Chez lui, elles sont enchevêtrées, quoi. Et comme le langage, le lieu d'une forge de la dignité humaine. Mais une forge continue. Une forge continue de la dignité humaine, quoi. Et jusqu'au bout. Et c'est ce que j'aime chez lui. Il est resté dans son geste jusqu'au bout, quoi.
Alors, plus récemment, Felwine Sarr, vous avez commencé à enseigner l'économie, à rénover d'ailleurs les concepts économiques, à revisiter certains théoriciens de l'économie libérale notamment, et à analyser nos règles de fonctionnement de notre société. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de votre itinéraire intellectuel et spirituel pour pouvoir vous passionner à ce point pour l'économie ?
En fait, je pense que je suis tombé dans l'économie par erreur et effraction. Tu vois, au départ, je fais des études scientifiques. Bon, je dois faire des études de mathématiques et tout ça, mais je suis totalement passionné par la littérature et la philosophie quand je suis adolescent. Et j'écris déjà. Quand j'arrive à la fac, j'ose pas, avec un bac scientifique, aller faire des lettres et de la philosophie. Je choisis un compromis. Je choisis l'économie, puisque c'est une science humaine avec un contenu mathématique. Et je me suis pris au jeu, à force de faire des études d'économie jusqu'au doctorat. Je commence à aimer la discipline et la comprendre. Et puisqu'on me disait que l'Afrique était sous-développée économiquement, je me suis dit, tant qu'à faire, si je choisis des études qui ne sont pas le fruit de ma vraie passion, je vais choisir une discipline utile au continent. Et j'avais vraiment à cœur de comprendre l'énigme de l'économie pour apporter...
Là aussi, c'est le poète, parce qu'il prend les mots à bras-le-corps. Sous-développement.
Voilà. Et je me suis dit, c'est quoi cette histoire? On va aller voir ce que c'est. Mais en même temps, je continue à lire, je continue à écrire, je continue à me nourrir de philosophie, de musique, de littérature. Et pendant des années, je m'évertue à être un bon économiste. J'enseigne de l'économie, j'enseigne de la macro, de l'économétrie. Je remporte des prix en économie, des prix de recherche scientifique, le prix Abdoulaye Fadiga en 2010. Je fais de la recherches, je produis des thèses.
C'est moins important que le reggae sénégalais.
Oui, et je cloisonne les deux. Et je cloisonne. Et puis au fil du temps, je décloisonne. Je me rends compte que tiens, il ne s'agit, je sais pas, d'avoir un esprit en économie et un esprit en littérature et en philosophie. Et que probablement la vraie question, c'est qu'il fallait ouvrir, d'un point de vue épistémologique, la discipline. Et quand je commence à faire ça, ben tout devient clair, quoi. Et je comprends qu'en fait, je peux tout mettre dans un creuset, que je peux construire une expérience à l'intérieur des sciences humaines et des humanités, et que l'économie était une humanité. Mais une humanité qui était intéressante, c'est qu'elle se laissait irriguer par les autres humanités. Et donc, du coup, je pense que mon regard d'artiste et d'écrivain m'a donné une autre perspective sur les humanités que la perspective économique. Donc chaque fois, je pouvais la voir en biais. Et je me rendais compte qu'il lui manquait quelque chose. Elle ne pouvait pas juste être dans son biais formaliste. Et que pour qu'elle soit intelligente, il fallait qu'elle se laisse irriguer par le reste. Et après, à un moment donné, j'ai décidé de manière, je dirais, choisie et consciente de déconstruire des concepts qui me semblaient trop réifiés et de tenter de faire, et de tenter de, voilà, de théoriser une économie du lien, une économie du vivant, une économie relationnelle et une économie qui est à sa place, quoi, parce qu'elle se pense telle qu'elle est et elle est humble et elle apprend des autres humanités et puis elle oublie que c'est un moyen, c'est pas une finalité et que c'est un moyen qui doit être assujetti à une finalité plus haute que juste la production de biens qui dévaste la planète. Et donc, du coup, j'ai tout mis ensemble. J'ai tout mis dans un creuset, quoi.
Oui, et on voit bien qu'en ce moment même, vous êtes encore dans un nouveau cycle philosophique et politique, Felwinsar, et que vous articulez des pensées économiques pour redéfinir cette société de défiance dans laquelle nous vivons, le mot même de bénéfice, de surcoût, de capital, etc. Et que du coup, votre pensée va englober aussi ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant et ce qu'on appelle aujourd'hui le non-humain. Et là aussi, on sent bien que philosophiquement, vous êtes en train de construire des nouveaux concepts pour qu'on puisse comprendre ce qui nous arrive.
Oui, c'est à ça que je travaille. À Duke, j'aurais proposé un programme qui s'appelle l'écologie des savoirs, avec l'idée de leur dire que le savoir du logos, il est là. Mais il y a du savoir qui est dans le non-logos, qui est dans le non-verbe. Il y a du savoir qui est dans le corps. Je pratique les arts martiaux depuis très petit, je le sais.
Quel art martiaux ?
Le karaté Shotokan. Donc, depuis plus de 35 ans, je le pratique. Donc, je sais que le corps, c'est la danse, elle est là. La musique. Il y a des savoirs, c'est un espace épistémique qui produit une forme d'intelligibilité très, très intéressante. Les arts, les textes oraux. Et toutes ces ressources de savoir sont dans le corps des sociétés. Elles ne sont utiles pour répondre à nos défis, à condition qu'on les considère comme des savoirs, qu'on aille vers elles, qu'on comprenne comment elles fonctionnent, qu'on considère qu'il y a de l'incommensurabilité. Parce que généralement, ce qu'on a fait, c'est quand ces savoirs-là ne satisfaisaient pas les critères scientifiques, on les ignorait. Comme si la science
productive,
comme si la science avait le monopole de la production du réel ou de l'intelligibilité du réel. C'est une forme de production de l'intelligibilité du réel, mais elle doit pouvoir être en dialogue avec d'autres formes d'appréhension du réel. Si on les met dans une écologie, on produit de nouveaux savoirs. Et c'est à ça que je m'attelle. Et les sociétés africaines sont très, très riches de ce point de vue-là parce qu'elles incorporent des savoirs qui leur ont permis de durer. Parce qu'aucune société ne dure dans le temps si elle ne transmet un savoir, si elle ne produit un savoir sur la vie de sa société et si elle ne le transmet dans le temps. Sinon, elle ne dure pas. Donc, il y a une forge là. Et la question des non-western épistémologies, des pensées indigènes, des pensées autres, des rapports au monde autres, des ontologies différentes qui on produit dans le temps de la vie durable, de l'intelligence de la vie, de la sagesse, du savoir sur la vie, c'est des ressources qui appartiennent à l'humanité. Je ne vois pas pourquoi on les laisserait de côté et pourquoi on serait sur une seule archive alors qu'on a des défis aussi importants. Et donc il me semble qu'élargir la géographie du savoir, de la raison, de ce que savoir veut dire, c'est aussi une nécessité épistémologique. Et c'est une nécessité, je dirais, politique. Parce que le lieu... les savoirs reproduisent un ordre social, politique et économique. Et si on veut une révolution profonde, il faut remonter à ce lieu-là. Il faut remonter là où se nouent les armatures de la société. Si on est juste là où la société elle se produit et qu'on ne regarde pas les lieux qui la produisent et qu'est-ce qui la produit, les révolutions sont des révolutions à mi-chemin. On peut changer les formes, mais si on ne regarde pas la source, et la source, c'est l'épistémologie. Ça prend plus de temps, mais il faut qu'on repense les épistémologies. Et l'économie est un bel exemple. C'est-à-dire que si on change d'économie fondamentale, on changera de rapport au vivant. Mais pour changer d'économie fondamentale, il faut qu'on revienne à la source de ce que nous appelons économie et comment est-ce qu'on la repense absolument fondamentalement. Et je pense que là-bas, c'est un travail qui est plus durable, mais que les chercheurs doivent entreprendre.
Merci beaucoup, Felwin. Alors, je rappelle deux derniers ouvrages, L'économie à venir, ça c'est un dialogue absolument incroyable et très très intéressant, d'un haut niveau, mais on peut comprendre beaucoup de choses, entre Gaël Giraud et vous, donc c'est avec une préface d'Alain Supiot, et ça vient de paraître aux éditions Les Liens qui Libèrent, et puis un livre poétique, très sensuel et sensoriel, magnifique, qui s'intitule « La saveur des derniers maîtres » et qui est paru, qui vient de paraître aux éditions Philippe Ray. Merci beaucoup. Dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui vivait, dis-moi ça qui passait, dis-moi ça qui passait.
Laissez-moi vivre. Oh non, ma pépa, c'est mon laïo qui a brillé pour moi. Oh non.
Et c'est avec Delgrès, ces mots-là, que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Iris Vertanessian, Élodie Royer. Merci à Lilian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Felwyn, merci encore. Je rappelle que votre dernier livre s'intitule « La saveur des derniers maîtres » et qu'il est publié aux éditions Philippe Ray. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka Sayas pour son Very Good Trip.